Alors, rebonjour. La parole d'aujourd'hui, je vous la présente un peu comme une courte pointe qui est formée de plusieurs morceaux, mais qui, agencés et réunis, forment un tout unique, quelque chose d'harmonieux et d'unique. J'espère que vous la recevrez avec votre cœur et qu'elle prendra racine en vous, et que l'un ou l'autre des éléments vous aideront à cheminer. Je nous rappelle le texte de Michée, le prophète Michée. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que Yahvé requiert de toi. Rien si ce n'est pratiquer le droit, aimer la charité et marcher humblement avec ton Dieu. Oui, marcher ensemble avec notre Dieu, vouloir être avec. À l'Arche, ce n'est pas des distributeurs de soins que nous sommes, mais on vit avec les personnes et on dit à l'autre, tu es important, tu es plus beau que tu n'oses le croire. C'est des phrases qu'on a entendues, hein? Je suis heureux, heureuse d'être avec toi, d'être bien avec toi, simplement. Tu apportes la joie dans ma vie. Mais plus que cela, accepter de se laisser aimer, accepter d'avoir besoin de l'autre, accepter de recevoir, et être le Christ que l'on visite. On a vu, je vais faire une petite rétrospective des différentes solitudes dont on a parlé. On a vu la différence entre être seul, qui est un fait, et se sentir seul, qui est un sentiment. On peut se sentir seul au milieu d'une foule. On a parlé de la solitude sociale, fait de n'avoir presque aucun contact interpersonnel, l'isolement, le sentiment d'exclusion. On a aussi parlé de solitude affective, l'absence de liens affectifs intimes, de liens de qualité, même si on a un réseau social. C'est un mal-être en lien avec le manque de relations significatives, de personnes à qui se confier, avec qui être authentique. Ça crée un sentiment de vide et de solitude très fort. On a parlé aussi de solitude enrichissante. Choisir d'être seul de façon ponctuelle pour nous, pour notre bien. On a parlé aussi de solitude souffrante, être seul de façon chronique et non souhaitée, en CHSLD, en résidence de personnes âgées, en d'autres formes de résidence, etc. On a parlé aussi de solitude imposée temporairement, soit par une séparation, un déménagement, la mort d'un proche, et comment c'était important de se recréer un tissu social. On a parlé aussi de la solitude délibérément choisie. La personne qui érige des murs autour d'elle, qui s'isole afin de se protéger, soit parce qu'elle a vécu de l'intimidation, de la violence, des mauvais traitements. Mais c'est une conséquence négative, ce rejet de la relation, ce rejet de relations sociales saines se maintient dans l'isolement. La personne, on sait qu'elle est seule, qu'elle en souffre, on essaie de la rejoindre et c'est impossible parce qu'elle a érigé des murs autour d'elle et qu'on n'arrive pas à défaire ces murs, à détruire ces murs. Certains choisissent un mode de vie qui génère plus de solitude. Par exemple, changer de ville pour étudier, travailler, une charge de travail trop lourde, on n'a pas de temps pour les relations. Ce type d'isolement fragilise l'individu qui sera moins apte à faire face aux épreuves de la vie par la suite. Mais il y a aussi les bienfaits de la solitude des personnes qui choisissent de s'isoler temporairement pour profiter des bienfaits qu'apporte la solitude, de mieux se connaître, de créer des relations interpersonnelles harmonieuses. Ce sont toutes les différentes formes de solitude dont on a parlé à venir jusqu'à maintenant. Et ce soir, Pierre-René Côté va nous parler aussi de la solitude prophétique. Il y a des facteurs prédisposants à cette solitude: le manque d'habileté sociale, la timidité, les personnes introverties, les personnes qui manquent d'estime de soi, un sentiment plus ou moins constant d'échec et de honte. On s'isole en évitant les contacts sociaux. Il y a aussi les problèmes de santé mentale, la dépression, les troubles anxieux. L'anxiété sociale, éviter les contacts sociaux, de peur de vivre des émotions difficiles. Je n'irai pas à tel endroit parce que je sais que je vais rencontrer telle personne et ça va me faire vivre des choses difficiles. On préfère rester chez nous et s'abstenir. Les périodes prolongées d'isolement, détresse, puissants sentiments d'ennui, de tristesse, de désespoir et de dévalorisation, qui conduit souvent à un état dépressif. Et cela nous conduit à la vulnérabilité accrue de l'isolement. Et nous avons vu que peu importe la cause de l'isolement, il est reconnu que celui-ci rend plus vulnérable sur le plan de la santé psychologique et de la santé physique, au point qu'il augmente le risque de décès par maladie, de suicide. Le support social serait d'ailleurs le facteur de protection le plus important face à notre espérance de vie. Un réseau social de qualité permet aux individus de faire face plus facilement au stress provoqué par les épreuves de la vie, ce qui réduit les facteurs de risque pour la santé mentale et psychologique. J'ai regardé la situation des personnes âgées avec lesquelles je vis. J'ai observé et j'aimerais un petit peu vous partager, parce qu'il y a des choses que vous vivez sûrement vous aussi, que je vis moi-même, à propos des pertes et des deuils qui se vivent avec l'âge, avec la maladie, ou avec l'impossibilité de faire ce qu'on était capable de faire avant. Quand on vieillit, souvent, c'est ce qui arrive. Et j'ai fait une liste des petits deuils qu'on a à vivre, juste pour qu'on s'en rappelle et qu'on y réfléchisse. Dans nos vies, il y en a peut-être un ou l'autre dans ça que vous vivez vous-même. La capacité physique, la santé, qui se détériore tranquillement. Les personnes autour de nous qui sont parties, on l'a dit, hein, une madame qui avait 100 ans, là, et qui disait, ben, tout le monde est parti, ils sont morts. Le réseau social, l'isolement, la solitude, la tristesse. Quand on travaille, on a toujours un réseau social, hein, des compagnons de travail, etc. Mais souvent, quand on prend la retraite, oh oh, c'est pas toujours pareil. Hein. Ces relations-là ne restent pas toujours. Des fois, c'est l'occasion de voir quels sont nos vrais amis. Les relations que nous allons garder ou non. Mais des fois, on se retrouve tout seul, après quelques années. Ce réseau social est dissous. La perte de notre reconnaissance, de notre valeur, de notre compétence. Avant, on était chef d'entreprise, ou on avait des postes clés, on était reconnu. Et tout à coup, on n'a plus de responsabilité. Et on est inconnu. La motivation diminue. Il y a une chanson de Charles Aznavour qui dit « Tu te laisses aller, tu te laisses aller ». Il parle à sa femme qui se peigne plus, puis qui a les bas sur les chevilles, etc. On se laisse aller. On sent moins le besoin de se peigner, de se laver, de se parfumer. Hein? Il y a un intérêt pour une curiosité pour les changements technologiques, mais c'est les valeurs des jeunes. Hein? Beaucoup n'entrent même plus dans ça. Hein? Ils ne veulent rien savoir. C'est pourtant un moyen de communication important. Mais c'est aussi un moyen d'isolement. Comme on disait avant, on peut avoir 1000 amis et pas en avoir un autour de nous. L'abandon de la pratique religieuse par dépit, mais sans remplacement. On arrête de pratiquer parce qu'il y a telle ou telle chose dans l'Église qui ne nous a pas plu, ou bien tel prêtre qui nous a dit telle chose. Ou bien on s'est senti frustré durant des années parce qu'on ne nous a pas enseigné le Dieu d'amour, mais un Dieu vengeur ou un Dieu juge. Donc on arrête, mais on ne remplace par rien. Alors il y a un vide, parce qu'on sait que l'être humain est un être religieux. Le manque de liberté. J'ai été obligée de vendre ma voiture. J'ai perdu mon permis de conduire. Il n'a pas été renouvelé. Et je ne peux plus me déplacer. Je suis confinée ici et je m'ennuie. Les différents handicaps. On marche. On a des marchettes, des cannes, des déambulateurs. Des chaises roulantes. Mais plusieurs ne l'acceptent pas. Et sont malheureux. On perd notre fierté. Avant, on s'organisait tout seul. Maintenant, on est obligé. On a besoin de soins intimes. Et ça nous dérange. Ça nous fait mal. C'est pas drôle de se faire laver par un autre. On s'est lavé les pieds hier et nous, on a trouvé ça bon, mais c'est parce qu'on avait toute une motivation et un appel de Jésus à le faire. Mais quand tu es malade et que tu dois te faire laver et que tu es dans un hôpital ou un centre CHSLD, etc., et qu'on te lave, moi j'ai vu ça parce que j'ai travaillé à Robert Giffard quelque temps, un été, et j'ai vu comment on lavait les patients, hein? Un d'un bord, puis l'autre de l'autre, puis ça y va, vite, 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 pas de tendresse, pas d'amour, pas de respect. Hein? Et j'ai nommé Robert Schwab, mais ça peut être dans n'importe quel hôpital ou n'importe quel centre. Se faire laver par quelqu'un qui est indifférent. C'est très différent que de se faire laver par notre fille ou notre fils ou quelqu'un de proche, un ami, quelqu'un qui nous aime. Mais se faire laver et penser qu'on ressemble à une carotte ou un blé d'Inde ou d'autres choses, on n'est rien pour cette personne-là. C'est dévalorisant. C'est humiliant. Et surtout quand les personnes nous laissent tout nus sur une civière et qu'ils vont, ils ont été demandés pour faire d'autres choses et que tu restes là. J'ai une de mes amies qui a été au centre François Charon et à qui c'est arrivé plusieurs fois. Et elle venait chez nous et à chaque fois elle pleurait parce qu'elle ne se sentait pas respectée, parce qu'il n'y avait pas de pudeur. Le respect dans la façon d'être traité. Par exemple, si je suis à la cafétéria et que j'ai de la misère à m'exprimer, et à la table, il y a un menu, mais finalement, comme ça me prend un peu de temps à dire ce que je veux, on décide pour moi, on me suggère quelque chose, puis c'est ça qu'on va manger. On n'a pas pris le temps de m'écouter. Le temps, me laisser le temps de dire ce que je veux. On décide pour moi. Les tremblements. On doit prendre une paille pour boire. Parce qu'on tremble trop, notre soupe va avoir renversé. Et ça aussi, ça nous humilie. Quand on est à la table avec trois ou quatre autres personnes, c'est pas drôle. On trouve pas ça le fun. La perte de l'audition, qui est un facteur d'isolement, le repli sur soi-même. Quand on n'entend pas souvent, on se ferme. Hein? Psychologiquement, on se ferme. Et j'ai un ami qui avait des appareils, et quand on était en réunion avec tous les petits bruits de tout le monde, à un moment donné, il enlevait ses appareils. Puis à un moment donné, quelqu'un l'a questionné, il ne répondait pas. Alors, il a dit « excusez-moi », puis il a repris ses appareils. Mais c'était simplement, il avait démissionné parce qu'il n'entendait pas. Quand on ne peut pas entendre, on ne peut pas rester attentif et être intéressé. Plus de force dans les jambes, on marche péniblement. C'est encore un petit deuil qu'on a à faire. J'en sais quelque chose, je fais de l'arthrose comme plusieurs d'entre vous. Le souffle court, on doit s'arrêter souvent en marchant. J'ai une amie qui s'arrête à tous les 6 pas. Elle ne peut pas en faire plus pour prendre son souffle. La vue qui baisse, on perd beaucoup de choses. On a moins de capacité d'admirer, de s'émerveiller. Alors, ce sont toutes des petites choses, des petits deuils qu'on a à vivre et qui nous amène tranquillement à la solitude, d'une certaine façon. Il y a aussi une dame qui m'a dit à un moment donné, moi j'anime au niveau des messes dans la résidence où je suis, et après la messe de Pâques, j'ai fait question, je trouvais ça important d'aller donner la main à tout le monde et de leur souhaiter joyeuse Pâques. Et je suis arrivée à une femme qui était assise en arrière et je lui ai souhaité joyeuse Pâques. Et je l'ai revue dans l'après-midi, dans l'ascenseur. Et elle m'a dit, merci de m'avoir souhaité joyeuse Pâques. Ça m'a touchée et émue. Sa voix tremblait encore et elle était prête à pleurer. Et je lui ai dit, bien, on pourrait se voir plus souvent et jaser. J'ai perçu que cette personne souffrait de solitude. Et le seul fait de se faire dire « joyeuse Pâques », ça l'a émue aux larmes. Peut-être qu'elle attendait un joyeuse Pâques de ses enfants ou de sa famille, ou je ne sais pas. Mais c'est moi qui lui ai donné ce joyeuse Pâques ce matin-là. Et dans l'après-midi, elle est encore émue aux larmes. Des fois, on vit des attentes. Quelqu'un qui nous dit, « Je vais t'appeler et on va manger ensemble. Tu vas venir souper chez nous. On va se faire un bon spaghetti. » Et finalement, la personne l'oublie et ne nous appelle pas. Ça nous déçoit. Puis des fois, ben, si on est de bonne humeur et assez fort, on va prendre le téléphone et on va l'appeler. Puis on va dire, ben, « Viendrais-tu souper chez moi? » En se disant, ben, tu m'as oublié, mais moi, je ne t'ai pas oublié. Mais c'est une déception. Une personne qui me dit, j'ai dû vendre mon auto, j'ai perdu ma liberté d'aller où je veux, quand je veux. C'est important. Il y a le transport adapté, bien sûr, mais ce n'est pas la même chose. Et la personne qui devait probablement se servir beaucoup de son auto voyait ça comme une très grosse perte. Ou encore quand une promesse est faite et qu'elle n'est pas tenue. Heureusement pour nous, Dieu tient toujours ses promesses. Mais des fois, les humains, pas toujours. Et c'est aussi une déception et un facteur de tristesse. J'ai remarqué deux manières de vivre ces situations-là chez les personnes avec lesquelles je vis, que je côtoie. Une est isolée. De se faire discrète, de ne pas déranger ou attirer l'attention sur elle. On ne s'intègre pas, on fait sa petite affaire. J'ai mon loyer, je m'arrange. Et l'autre est de se faire des amis, de se soutenir mutuellement. C'est beau de voir ça. Deux vieilles madames qui se soutiennent, qui se confient l'une à l'autre, qui s'entraident, qui s'attendent pour aller manger ensemble, qui sont à l'affût de ce qui peut faire plaisir ou rendre service à l'autre. Il y a une mutualité. C'est très différent. C'est les mêmes deuils, mais c'est vécu autrement. La personne a choisi la vie. La personne a choisi d'être heureuse, de ne pas s'isoler, mais de trouver des liens, créer des liens, faire tomber les murs et créer des liens. Les vieux couples qui sont tellement touchants, souvent, ils ou elles sont plus fragiles et l'autre en prend soin, avec tellement de présence et d'amour. Il y a une telle complicité entre eux. Je reprends ma phrase de Jean Vanier. Ils sont présents l'un à l'autre, la vie s'écoulant de l'un vers l'autre. Le livre de la Genèse a pour but de proposer une façon de comprendre l'existence de l'homme. Il affirme que celui-ci a été créé par Dieu, et que sa vie ne prend sens que par la relation entre lui et son Créateur. Mais fait pour le bonheur, il est toujours tenté de refuser le chemin qui y conduit, parce que celui-ci lui paraît trop exigeant. Désireux de vivre tout de suite et sans risque, il manque ce qui lui permettrait de rencontrer dans l'amour véritable, Dieu et les autres. Cependant, Dieu ne renonce pas à son projet. Il vient chercher l'homme coupable et lentement, il lui fait reprendre la route menant à la vraie réussite. Le récit des origines, les 11 premiers chapitres de la Bible, ne rapporte ni les événements historiques, ni une description scientifique de la naissance de l'univers. Ils font connaître la situation de l'homme au sein du monde créé. Le récit essaie de faire entrevoir la vocation profonde de l'homme, appelé à vivre dans l'amitié de son Dieu. À partir du paradis terrestre, l'auteur montre que l'homme est essentiellement fait pour le bonheur. Mais il pêche et Dieu reprend sans se lasser son œuvre de la création. C'est ce que veut faire le récit de l'alliance de Noé après le déluge. Si Jésus est revenu de la mort, il a ainsi prouvé de façon ultime qu'il est Dieu. Il est donc toujours vivant aujourd'hui. Il ne cherche pas seulement à ce qu'on croit qu'il existe. Il veut être comme connu de chacun et faire partie de nos vies. Car s'il est mort, c'est pour nous offrir la délivrance par rapport au mal qui est en nous et nous permettre de bénéficier de la présence de Dieu au quotidien. C'est Dieu qui a la vie en lui-même, qui est la source de l'amour et de l'estime dont nous avons tous besoin. Quelqu'un a dit, la névrose principale de notre époque est le sentiment de vide. Nous avons tous un profond besoin d'une vie qui a un sens. Jésus nous offre une vie abondante, comblée, à travers une relation personnelle avec lui. Il a dit, « Je suis venu afin que les hommes aient la vie et la vie en abondance. » On lit en Saint Jean, chapitre 10. À nous maintenant de lui faire confiance ou non, comme ses contemporains de l'époque. Mais il a donné à tous ceux qui veulent bien de Dieu dans leur vie assez d'éléments pour que leur foi ne soit pas une foi aveugle. Nous avons parlé des bienfaits de la solitude. L'état psychologique dans lequel nous conduit la solitude peut être très bénéfique. Il nous permet d'exister à l'extérieur du regard des autres et de lâcher prise sur le monde extérieur. Ce texte-là fait partie du texte de l'Université de Sherbrooke dont Pierre-René nous a fait part. Ceci nous amène alors à mieux ressentir notre subjectivité, notre vie intérieure, nous apprenant ainsi la satisfaction d'être avec soi-même. C'est important de se sentir bien avec soi-même, sans distraction. Durant l'adolescence, la solitude rend possible la construction identitaire, processus enrichissant qui nous aide à évoluer, permettant ainsi la réalisation et l'actualisation de soi. De ce fait, l'individu peut reprendre contact avec lui-même, ce qui lui donne accès à sa créativité, à ses rêves, à ses désirs, à son imagination. Il peut cultiver son jardin secret. Est-ce que tout le monde en cultive notre jardin secret? Est-ce que vous avez un jardin secret? Et élargir la connaissance qu'il a de lui et de son environnement. D'ailleurs, lorsque l'individu consent à la solitude, il peut vivre des émotions qu'il ne s'autorise pas à vivre en groupe. La nostalgie, la colère, la tristesse. Contacter ses émotions permet de mieux cerner son vécu et peut apporter des prises de conscience. Cela peut créer un espace réflexif qui permet de faire des choix éclairés et ajustés à soi. Somme toute, le bienfait le plus considérable de la solitude est qu'elle permet de mieux connaître, de mieux se connaître, pour ensuite retrouver les autres et nourrir les liens que nous entretenons avec eux. « Il nous donne des pistes pour apprivoiser la solitude et aller vers soi. La solitude est une condition humaine qui nous fait prendre conscience que nous sommes des êtres séparés les uns des autres, même si nous sommes des êtres relationnels. Et cette condition est une réalité indéniable, de notre naissance à notre mort. La solitude est nécessaire au développement de notre individualité. Et après tout, dans la solitude, c'est avec nous-mêmes que nous sommes. Il est primordial pour l'être humain et l'entretien de ses relations de pouvoir alterner entre des moments de solitude et des moments d'interdépendance les uns avec les autres. Voici donc quelques pistes pour vous permettre de plonger dans votre solitude pour mieux découvrir votre vie intérieure. Et le premier qu'on nous donne, c'est écrire. L'écriture permet de visualiser sur papier ce que l'on ressent et ce que l'on pense. Par exemple, vous pouvez noter les expériences que vous aimeriez vivre, les rêves et les buts que vous voudriez accomplir, sans vous censurer, en vous interrogeant ensuite sur ce qui vous empêche d'accomplir ce que vous avez identifié. Vous vous rendez compte que c'est souvent la peur du jugement ou du regard des autres qui vous empêche d'agir. Profitez donc de ces moments de solitude pour prendre conscience que vous êtes la seule personne responsable de créer votre vie et la mieux placée pour savoir ce dont vous avez réellement besoin. La solitude nous offre de belles leçons. Il faut d'abord attendre de soi et non des autres. Le deuxième moyen qu'on nous suggère, c'est de méditer. La méditation est une autre manière de se retrouver pour réfléchir en pleine conscience à divers sujets. Rester assis sans bouger, avec les yeux fermés pendant quelques minutes, quotidiennement, permet de s'enraciner au plus profond de soi-même. Ce moment de tranquillité rend possible le contact avec sa vie intérieure, trop souvent laissée de côté. Et là, on nous donne même des adresses qu'on peut visiter, hein, pour aller faire part santé, pour aller voir des méditations. Et je me rappelle de ma belle-sœur qui était professeure en maternelle et qui, elle, s'obligeait, hein, quand elle arrivait chez elle dans la fin de l'après-midi, elle s'assoyait dans son fauteuil et c'était ses 15 minutes de relaxation. Hein, justement pour se recueillir et se retrouver elle-même pour continuer la journée. Faire le point sur vos relations. Les moments de solitude peuvent être utilisés pour retrouver vos relations et les rendre plus nourrissantes. Réfléchissez d'abord à vos besoins, vos envies ou à ce qui vous rend insatisfait dans une relation. Questionnez-vous sur la valeur et le sens que vous accordez à cette relation en particulier. Cela vous permettra ensuite d'identifier des pistes de solutions que vous pourrez aborder avec l'autre afin que votre relation soit plus satisfaisante. Le fait de s'investir activement dans l'enrichissement d'une relation permet de développer des liens plus profonds, plus intimes et souvent plus durables. Cela permet donc de se sentir moins seul. Ce moment de réflexion peut également mener au choix de mettre fin à une relation qui ne correspond plus à ce que vous souhaitez vivre. Et comme quatrième item, faire des activités personnelles nourrissantes. Au début, ça peut être difficile ou même inconfortable de faire des activités seules. Vous pouvez donc commencer à vous habituer graduellement à le faire. Différentes activités peuvent vous enrichir, peuvent enrichir vos moments de solitude. faire du sport, lire, aller au cinéma. Ce sont des manières d'aborder activement la solitude. Également, vous consacrez au développement de vos talents artistiques. C'est un bon moyen de vivre une expérience positive dans la solitude. Prendre le temps de vous reposer, de faire quelque chose dont vous avez envie depuis longtemps, mais que vous avez trop repoussé. Planifier un projet, un voyage, faire une balade dans la nature. À force de vivre des moments de bien-être seul, vous commencerez à apprivoiser et apprécier les moments de solitude. Des pistes pour briser l'isolement et aller vers les autres. Si vous souffrez de solitude et que vous souhaitez développer davantage de relations, voici quelques stratégies pour trouver celle qui vous convient. Provoquez des rencontres. Si vous avez un horaire chargé qui diminue vos contacts sociaux, il est possible de planifier à l'avance des espaces dans votre horaire pour partager des moments avec des gens. S'inscrire à des activités pour faire de nouvelles rencontres peut aussi enrichir votre réseau social. Lorsque vous souffrez de solitude, mais que vous craignez de déranger les autres, osez appeler ou aller rendre visite à un proche. Il faut parfois prendre des risques pour répondre à ses besoins. Créer des liens avec les personnes qui sont proches géographiquement est plus facile. Tentez de développer un réseau social. Cela contribuera grandement à votre satisfaction. S'impliquer dans la vie, que ce soit la vie étudiante ou la vie de retraité. Il y a plusieurs associations auxquelles on peut participer et qui nous amènent de nouvelles rencontres et qui développent aussi nos habiletés sociales. Faire du bénévolat dans la communauté. On sait que le bénévolat, c'est toujours bon pour les deux, hein, la personne qui reçoit et la personne qui donne. Ça vous permet d'évoluer dans d'autres sphères sociales et de multiplier vos rencontres. Et, bien sûr, se sentir utile, ça augmente la confiance en nous. S'allier avec des personnes qui vivent la même chose que soi. S'entourer de personnes qui partagent une expérience commune avec nous. C'est un bon point de départ pour créer des liens. Lorsque des personnes partagent des intérêts communs, il est plus facile de démarrer une conversation qui peut ensuite mener à une relation plus approfondie. Et enfin, participer à des activités d'entraide, de projets, visant à offrir du support aux autres dans des périodes difficiles. J'avais convenu avec May que nous arrêterions au milieu, c'est à peu près ça, j'ai dépassé 5 minutes, mais pour se lever, hein, parce que pas sans qu'il osait. Et aussi, nous allons écouter une chanson et la chanter, si vous la savez par cœur, je pense que beaucoup de monde la savent, et c'est la chanson « Ma solitude » de Georges Moustaki.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, ce qu'il y a ça, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude, elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre, elle m'a suivi ça et là. Aux quatre coins du monde, non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place. passe et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût, que je réagisse ou que je réagisse? Non. J'ai versé des larmes, par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour. Ma dernière compagne, non, je ne suis jamais seule avec ma solitude, non, je ne suis jamais seule avec.
Ça fait du bien de se lever un peu. Oui, hein? Ça nous aide à décramper un peu. Hein? C'est ça. Alors, j'aimerais maintenant qu'on passe... J'ai un texte sur l'arche, mais je pense que je vais le garder pour la fin, s'il y a lieu. Maintenant, on va passer sur des personnes qui ont vécu une solitude habitée, parce que c'est la solitude d'aujourd'hui, hein? Et cultiver une relation profonde avec Dieu. Et là, c'est une nomenclature un petit peu. Évidemment, j'en ai sauté plusieurs, mais c'est quand même une liste de personnes qui ont vraiment cultivé cette relation profonde à Dieu. Abraham, quitte ta terre, va vers le pays que je te donnerai. Cette promesse de Dieu, et qui va jusqu'à l'offrande de son fils. Quand Abraham pense que Dieu veut son fils, il va jusque-là. Mais Dieu lui dit, non, c'est pas ça que j'ai besoin. Hein? Je voulais vérifier si notre alliance était vraie. Et Abraham a suivi Dieu dans là où il voulait l'amener. Moïse, 40 ans dans le désert. Le peuple à la nuque raide. Ils l'ont fait... Mais il y avait un dialogue constant avec son Dieu pour savoir quoi faire avec son peuple, hein, comment en prendre soin, mais comment aussi le ramener quand il s'éloignait de la route. Hein. Les prophètes, messagers, interpellations, parler au nom de Dieu, dénoncer l'injustice, l'infidélité, ramener les gens à Dieu. Le prophète était toujours un marginal, hein? Quelqu'un qui dérangeait. Il n'était pas tellement aimé, hein? Mais il rappelait ce que Dieu voulait. Il rappelait au peuple le sens de sa vie. Jean-Baptiste au désert, d'être de peau, comme on nous dit, hein, tu mangeais des sauterelles. Mais les gens viennent à lui et il les baptise. Dans l'eau, bien sûr, Mais c'est il précède Jésus. Hein? Jésus va le faire dans l'esprit. Jean-Baptiste va le dire aux gens, moi je baptise dans l'eau, mais lui va vous baptiser dans l'esprit. Il pointe le Messie, le dernier grand prophète. Hein? Marie, la foi de Marie, son oui. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la Bible. Elle conservait toutes ces choses dans son cœur. Ça revient dans différents temps de la vie de Marie. Entre autres, quand les bergers et les mages viennent, hein, ils partent et Marie garde toutes ces choses dans son cœur. Elle ne comprenait pas tout. Et que c'est gentil. Même de la glace, hein? Merci. Ça, c'est l'amour en surpatte, hein? C'est ça. Je ne vous ai pas raconté ça. Je pense que je vais vous le raconter. Quand j'ai pris mes boîtes à lunch où je demeure, je t'ai demandé deux boîtes à lunch pour mes deux repas fournis, parce que j'ai une carte pour des repas tous les jours, hein? Et ils m'ont donné deux sandwichs au jambon, une pour le midi puis une pour le soir, lundi. Je suis venue mardi, encore deux sandwichs au jambon. Fait que là, j'ai dit, ben, il n'y a pas moyen d'avoir d'autres choses. Ben, il en reste encore des sandwichs au jambon. Fait que, bon, ben, j'ai dit, OK. Ben, j'ai dit, je vais en prendre encore deux autres demain. Est-ce que je pourrais peut-être avoir aux œufs? Il ne m'a pas répondu. Fait que j'arrive ici, puis sur l'heure du dîner, je confiais ça aux gens. Et sans dire un mot, j'arrive pour le souper et j'avais une sandwich aux œufs préparée par Jocelyne. Hein, c'est ça, c'est Jocelyne? C'est ça. Ils ont eu pitié de moi, hein, que je ne mange pas deux jours de fil, quatre sandwichs pareils. Ils ont dit, ben, j'ai dit, je vais te l'échanger pour ma sandwich au jambon. Okay? Mais c'est pour vous dire, ils ont écouté ce que j'ai dit. Puis moi, je le disais en face, tu sais, c'est pas... Je ne serais pas morte de manger une sandwich au jambon de plus. Hein? Mais la délicatesse du cœur les a fait préparer une sandwich pour moi. Hein? C'est ça, l'amitié, c'est ça, prendre soin de l'autre. C'est dans des petits gestes. Souvent, on pense à des affaires, hein? Convertir le monde. Convertissons ceux qui sont à côté de nous par notre façon d'être. Hein? Faisons-leur des sandwichs aux œufs. J'ai trouvé ça tellement délicat de penser de m'offrir cette sandwich aux œufs au lieu d'une sandwich au jambon, parce que je risquais d'en avoir encore aujourd'hui. Hein. Mais ça a été bien parce que j'en ai eu aux œufs aujourd'hui. Le chef m'a préparé, même s'il en restait au jambon, il m'a préparé aux œufs. Alors, mais c'est pour vous montrer la délicatesse du cœur de ces personnes-là qui sont à la cuisine et qui préparent plein de choses pour nous. J'en profite pour vous remercier devant tout le monde. Hein, c'est vrai qu'on est bien pressé. Hein? Bravo. Alors, la foi de Marie, je reviens sur elle, hein, qui conservait toutes ces choses dans son cœur. Elle ne comprenait pas tout le temps ce qui se passait. Hein? Quand Jésus était au temple, puis qu'il est resté là, puis que les autres sont repartis, hein, puis qu'ils l'ont cherché trois jours de temps. Pourquoi tu nous as fait cela? Hein? Mais il fallait que je m'occupe des affaires de mon père. Pas sûr qu'elle a compris très bien, Joseph non plus. Hein? Mais elle était là et elle conservait et elle méditait dans son cœur tous les événements de la vie de Jésus pour en trouver le sens, pour trouver sa mission à elle à travers ça. Et c'est pour ça qu'au pied de la croix, elle est restée debout et qu'elle a aidé Jésus, hein, en étant présente à sa souffrance. Parce que elle a toujours été centré sur lui. Sa vie était centrée sur lui. Son regard était centré sur lui. Est-ce que notre vie est centrée sur Jésus? Est-ce qu'on le regarde souvent? Est-ce qu'on pense à lui souvent? Est-ce qu'on se demande ce qu'il veut de nous souvent? Joseph, ses songes, hein, et l'obéissance de Joseph. Pose pas de questions. Il fait ce qu'on lui demande. Il fait sa mission. dans l'humilité et dans la bonté. Saint Joseph, dans l'humilité, dans la bonté. La fuite en Égypte, hein? C'est pas évident. T'es couché avec ta femme puis ton enfant, puis tout à coup, t'as un songe qui te dit, « Hey, dépêche-toi, lève-toi, allez-vous-en, sauvez-vous en Égypte. La vie de l'enfant est menacée. » Hey, ça veut dire, là, tu retournes pas à Nazareth, là. Tu reprends pas tes affaires. Hein? Tu pars avec ce que t'as sur le corps, comme on dit souvent. Quand tu passes un cataclysme ou un tremblement de terre, tu restes avec ce que t'as sur le dos. Ben, ils sont partis avec ce qu'il y avait comme bagage quand ils sont allés à Jérusalem. Pas à Jérusalem, à Bethléem. Ça voulait dire que lui qui était charpentier puis qui avait toute sa clientèle à Nazareth, il laissait tout ça pour s'en aller. Et il est parti. Mais ils ne comprenaient pas. Pas toujours, en tout cas. Mais ils étaient fidèles. Tous les saints sont des personnes, évidemment, qui ont su cultiver cette relation à Dieu, qui ont su se sentir aimés et vouloir répondre à cet amour de Dieu. Parce que c'est ça, dans le fond, qu'on a à faire. C'est pas plus compliqué que ça, hein? Répondre à cet amour immense. Et cette relation à Dieu, cet engagement à sa suite. Alors, tous les pères de l'Église, évidemment, dans les premiers siècles, j'ai fait une petite litanie, hein? Saint François d'Assise, Saint Vincent de Paul, Saint François d'Assise, la pauvreté, Saint François de Paul, la charité, hein? Saint Thérèse d'Avila, parce qu'il fallait bien que je mette des femmes aussi, hein? Je suis un petit peu féministe, alors. Saint Thérèse d'Avila, Saint Catherine de Sienne, qui a dit au pape, elle sort d'Avignon, là, puis retourne à Rome. Hein? Marie de l'Incarnation, au Canada. François de Laval, Catherine Tekakuta, les saints martyrs canadiens. Et là, je vous donnerai quelques secondes pour penser aux saints qui vous sont chers, à ceux que vous priez d'habitude, et de les ajouter à cette liste. Les saints d'aujourd'hui, Mère Teresa, Gandhi, Jean Vanier, il n'est pas sur les autels, mais pour moi, c'est un saint d'aujourd'hui. Hein? Il y en a plusieurs. Don Eldor Camara, au Brésil, Roger Schulz à Thésée, Etty Lucin, qui est morte à Auschwitz, hein? Edith Stein. Toutes ces personnes ont vécu une relation étroite, intime avec Dieu, qui les a envoyés dans la mission, en dialogue constant avec Dieu et avec leurs frères et sœurs. Elles ont vécu cette solitude habitée qui les avait fait vivre intensément, et je dirais jusqu'à la mort. Là, j'ai des petits textes. Je vous ai dit que c'était une courte pointe, hein? J'ai des petits textes que je trouvais qui nous feraient réfléchir et qui pourraient être bénéfiques pour nous aujourd'hui. Alors, il y en a un. Malheureusement, je n'ai pas noté quand je l'ai pris, dans quel livre que je l'ai trouvé. Alors, je ne pourrais pas vous le dire, mais ça s'appelle « Apprivoiser la solitude ». Et ça commence par un texte de Michel Coix. « Seigneur, ce soir, je suis seul. Peu à peu, les bruits se sont tus. Les personnes s'en sont allées et je suis rentrée à la maison seule. » Et ça continue maintenant par quelqu'un d'autre. « J'étais jeune prêtre quand, pour la première fois, j'ai pris connaissance de cette confidence de Michel Coix. Un demi-siècle plus tard, j'éprouve toujours le sentiment d'être abandonnée quand cette sorcière qu'on appelle la solitude me prend à la gorge et me fait perdre mon aplomb. Je me sens alors presque aussi misérable que je le fus en ce dimanche soir de 1964, à l'autre bout du monde, quand j'entrouvris la porte de ma petite maison pour la trouver déserte. Je me souviens d'une distinction faite par Henry Nouwen, qui est qui est un prêtre qui a vécu à l'âge, qui a enseigné dans une université américaine. Donc, je me souviens d'une distinction faite par André Nouwen entre une solitude qui nous fait sombrer dans le vide sans fond de l'isolement et une solitude qui élève notre âme vers un firmament rendu lumineux par la proximité du Très-Haut. Comment faire le saut d'une échelle à l'autre? Je ne le sais guère mieux aujourd'hui qu'au temps des tournants plus difficiles de mon pèlerinage. Une chose que j'ai apprise cependant, c'est qu'on peut, comme Moïse, trouver un grand réconfort en restant en dialogue avec lui tout au long de la route, jusqu'au jour où il nous sera donné de parler avec lui face à face, comme on parle d'homme à homme. Maintenant, j'ai choisi deux petits textes de Mère Teresa. Une, c'est « Méditons » et l'autre, c'est « Pour aller plus loin ». « Vois, je t'ai gravé sur la paume de ma main. Vois ce que Jésus est venu faire sur terre. Voilà ce que Jésus est venu faire sur terre. Proclamer la bonne nouvelle que Dieu nous aime, que nous avons du prix à ses yeux. Il m'aime. Et comment m'aime-t-il? Il le dit. Même si une mère parvient à oublier son enfant, moi, je ne t'oublierai pas. Je te tiens dans la paume de ma main. J'étais en train de méditer ce texte quand je me suis dit que des millions d'êtres dans sa main, et cependant, il peut me voir là, en plein dans sa main. Une toute petite particule, mais néanmoins là, puisqu'il le dit. C'est merveilleux de penser à cela quand on souffre, quand on se sent seul, quand on est en proie à l'inquiétude. Souvenez-vous que vous êtes là, dans sa main, et qu'au moment où vous souffrez le plus, ses yeux sont fixés sur vous, et vous avez du prix à ses yeux. Pour aller plus loin, si je suis ainsi blottie dans ta main, pourquoi, Seigneur, ne viens-tu pas à mon aide? Pourquoi ne mets-tu pas un terme à mon épreuve? Et Dieu te dit, mon enfant, me fais-tu confiance au point de croire qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que je vais bientôt révéler en toi? Acceptes-tu, par amour pour moi et pour tes frères, d'accomplir dans ta propre chair ce qu'il reste à souffrir de mes épreuves pour mon corps qui est l'Église? Enfin, l'hymne qui nous parle de chacune des parties de notre corps et que je trouve vraiment bien. Ouvre mes yeux, Seigneur, c'est notre prière aujourd'hui. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leurs souffrances et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas lourd. Garde ma foi, Seigneur. Tant de voix proclament ta mort. Quand vient le soir et le point du jour, ô Seigneur, reste avec moi. J'ai quelques pensées aussi dont je vais vous partager. L'image touchante de la mort ne s'offre pas à l'homme sage comme un objet d'effroi, ni à l'homme pieux comme un dernier terme. Je ne sais pas si vous autres avez la peur de la mort. Moi, je ne l'ai pas. Pour moi, c'est de tomber dans les bras de Dieu puis de se faire embrasser. Puis Dieu qui nous dit, qui va me dire, ma fille bien-aimée, hein, viens-t'en, je t'attendais. Alors, on dit ici que cet unage-là de la mort à l'homme sage, c'est pas de l'effroi. Hein. Elle ramène le premier, donc l'homme sage, à l'étude de la vie et lui apprend à en profiter. Elle présente au second, l'homme pieux, un avenir de bonheur. Elle lui donne l'espérance au milieu de ses jours de tristesse. Pour l'un comme pour l'autre, la mort devient vie. Et c'est de Goethe. Et saint Augustin nous dit, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. » Il l'a cherché partout. Il y a une chanson de Robert Lebel là-dessus. « Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout. Je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. » La sagesse qui vient d'en haut pacifie. Elle est indulgente, conciliante, portée à la pitié. C'est Jacques de Jérusalem. Et enfin, la parole de Jésus. Hein? Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Venez à moi, vous tous qui peinez, éployés sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Enfin, je vais terminer par une prière que je dis à peu près tous les jours. J'ai pris ça dans le prion à l'église. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on adopte une prière pour un certain temps. Hein? Puis des fois, on change, puis on en prend une autre. Mais là, c'est celle que je prends présentement. Et j'ai trouvé ça dans le prion à l'église et il n'y avait même pas de qui est l'auteur. Mais je le dis tous les jours et ça me fait du bien. Alors, je vous la partage en terminant aujourd'hui. Sans cesse, je me reçois de ta main. C'est ma vérité et ma joie. Sans cesse, ton œil me regarde et je vis de ton regard. Toi, mon Créateur et mon salut. Enseigne-moi dans le silence de ta présence à comprendre le mystère de mon existence grâce à toi, et face à toi, et pour toi. On peut chanter ?